Les podcasts du Collège de France.
J'ai choisi un sujet austère d'épistémologie. Je vais essayer de vous le rendre vivant. La question posée est comment peut-il y avoir une connaissance stable, une science, de ce qui change tout le temps ? Variation. Pour répondre à cette question, je m'adresse à la fois à Darwin et à des contemporains de Darwin, Whewell, Cournot, qui... Bon. En épigraphe à cette présentation, je vous cite un passage emprunté à un homme qui a lu tout Darwin, le biologiste californien Michael Ghislain, qui nous dit « Pour Darwin, comme pour Héraclite, le changement est le fond de la réalité. Ce n'est pas quelque chose de superficiel ou d'illusoire ou quelque chose qu'on peut escamoter. » La question, je me répète, est donc « Comment peut-il y avoir une science stable ?» de quelque chose qui change tout le temps. Ma référence principale sera au livre de Darwin, L'origine des espèces, dont nous fêtons l'anniversaire de la publication. Et je le cite dans la traduction Barbier. Abrégé, l'origine. Mon plan est en 7 points. Le processus historique, l'objectif scientifique, le moteur de l'évolution, ce qu'on cherche dans une science historique, l'ontologie sous-jacente à cette recherche, le choc anthropologique qu'a provoqué le message de Darwin et une petite conclusion sur la main de Dieu et celle de l'homme. Premier point, le processus historique. Au chapitre 2 de l'origine des espèces, Darwin écrit, par exemple, « Qui pourrait soutenir que la diminution de taille des coquillages dans les eaux saumâtres de la Baltique ou celle des plantes sur le sommet des Alpes ou que l'épaississement de la fourrure d'un animal arctique ne sont pas héréditaires ?» Pendant quelques générations, tout au moins, il pense là, derrière sa tête, au retour à la forme sauvage. Les changements évolutifs, selon Darwin, sont des changements lents, continus, non réversibles en général, et ils nous présentent une production de diversité par la répétition du même avec de petites variations. Ces changements sont peu perceptibles instantanément et frappants sur la durée. Les espèces dont Darwin parle ici sont en train de former une variété particulière et Darwin pense que cette diversification des espèces aboutit à la formation de plusieurs espèces différentes. On retient donc que les individus vivants ont une histoire singulière, les espèces aussi, les espèces vivantes ont une histoire singulière et plus généralement la vie sur Terre a une histoire singulière. Darwin s'intéresse dans ce processus historique aux variations de forme, de structure, de morphologie et à l'existence de formes intermédiaires entre les formes qu'on croyait franchement distinctes. Qu'il puisse y avoir engendrement des formes les unes par les autres, ce n'est pas une idée originale de Darwin, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, Maupertuis, Lamarck, Goethe, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire l'avaient déjà imaginé. Et c'est une hypothèse, comme le disait Cournot, plus raisonnable que l'hypothèse de Cuvier, qui pensait que lorsqu'une espèce s'éteint, Dieu envoie une nouvelle espèce par une création spéciale. ce créationnisme de Cuvier est tout à l'opposé de la position de Darwin. Darwin écrit encore, au chapitre 14 de l'Origine des espèces, le lien que nous révèlent partiellement nos classifications, lien déguisé comme il l'est par divers degrés de modification, n'est autre que la communauté de descendance, la seule cause connue de la similitude des êtres organisés. Nous avons donc devant nous un monde vivant dont le seul principe d'ordre est généalogique. Définir les espèces par généalogie, c'est ruiner la conception essentialiste des espèces. C'est reconnaître que, à chaque génération, la nature de l'espèce change un tout petit peu. D'autre part, admettre que les espèces, comme les individus, sont des êtres historiques, des êtres qui ont une histoire singulière, c'est se heurter à une objection épistémologique aussi vieille que la philosophie. On la trouve exprimée aussi bien chez Platon que chez Aristote. Je voulais citer ici chez ces deux auteurs. Platon fait dire à Socrate, dans le Cratyle, que ça n'a pas de sens d'affirmer qu'une connaissance est possible s'il est vrai que tout change et rien ne demeure. Or, nous venons de dire, les espèces changent un tout petit peu à chaque génération. Aristote dit, lui, « Supposons qu'il n'existe que des individus, il n'y aura alors rien d'intelligible, tous les êtres seront sensibles et il n'y aura science d'aucun, à moins d'appeler science la sensation. » Darwin parle peu de la vie comme phénomène spécifique et distinct, la vie terrestre, mais il se déclare disposé à croire que tous les animaux et toutes les plantes descendent d'un prototype unique. Il y a donc continuité des premières formes de la vie jusqu'à nous, continuité, ancêtre commun, unité de la vie et changement continu. D'un changement continu, d'un processus évolutif singulier, on ne peut qu'essayer de retracer l'histoire. Et Cournot, au premier abord, réagit en disant « Raconter une histoire, c'est de la littérature, c'est pas de la science ». Quel est alors l'objectif scientifique, s'il y en a un, que Darwin nous indique ? En quoi est-ce que la démarche darwinienne est scientifique ? La première chose à remarquer pour répondre à cette question, c'est que dans une démarche scientifique, on cherche des causes naturelles. Et c'est bien ce que fait Darwin, je le cite, dans les conclusions de l'Origine des espèces, « La production et l'extinction des espèces sont la conséquence de causes toujours existantes et agissant lentement, et non pas d'actes miraculeux de création. » C'est de la causalité, ce n'est pas du miracle. Selon l'historien des sciences Crombie, la dérivation historique a toujours été, depuis l'Antiquité grecque, l'un des styles de la pensée scientifique. Et il mentionne, entre autres, l'historien grec Diodore Siculus, disant qu'on peut faire l'hypothèse que les formes vivantes ont été engendrées à partir de la terre humide par la chaleur du soleil. Ce sont des causes réelles, naturel. Et cet historien grec dit aussi que le monde vivant à émerger d'un état indifférencié par l'action de causes naturelles qu'on peut encore observer, ce qui est exactement ce que dit Darwin, des causes toujours existantes. D'autre part, de quel type de démarche scientifique s'agit-il lorsqu'on cherche ces causes existantes ? D'une démarche d'analyse causale. Et cette démarche a été identifiée par deux contemporains de Darwin, qui sont Hewell et Cournot. Voilà. Hewell, dans son Histoire des sciences, et il le répète dans sa Philosophie des sciences inductives, identifie une classe de sciences qu'il appelle les sciences palétiologiques. Ce sont les sciences dont l'objectif est de remonter de l'état présent des choses à un état plus ancien dont on peut dériver l'état présent par une série de causes intelligibles, dit-il. Et il donne comme exemple ce que font les géologues, les linguistes, les archéologues qui cherchent dans le passé les causes de l'état présent et la manière de dériver l'état présent du passé. Quant à Cournot, il rappelle que pour les anciens, il n'y avait de l'individuel, du particulier, du contingent, du variable, aucune science concevable. Mais avec le développement des sciences, Cournot estime qu'on ne peut pas se contenter de ce lieu commun. Il y a, dit-il, des sciences comme la géologie, l'embryogénie, c'est-à-dire l'embryologie, qui portent au contraire essentiellement sur une succession d'états variables et de phases transitoires. Et l'objectif du scientifique, en embryologie par exemple, c'est de reconstituer les stades du développement embryonnaire, reconstituer le schéma d'une histoire. Conclusion de ce second point, l'ambition scientifique n'est pas seulement de raconter une histoire en décrivant le cours des événements, ce qui serait juste faire la chronologie. L'ambition scientifique est d'expliquer par des causes, d'expliquer après coup en recherchant dans le passé d'où c'est arrivé, d'où cela procède. Et la caractéristique de ce type d'explication, c'est qu'elle ne permet pas de prédire le futur. C'est une curiosité épistémologique, puisque dans la position orthodoxe, on dit « expliquer, c'est prédire ». Ici, « expliquer » n'est pas prédire. Parce qu'on n'a pas de loi universelle. Troisième point, le moteur de l'évolution. Nous avons ici l'apport spécifique de Darwin. Le mécanisme de l'évolution. La constatation de Darwin, la constatation initiale, c'est qu'il n'est plus d'individus qu'il n'en peut vivre. Et puisqu'il n'est plus d'individus qu'il n'en peut vivre, il faut les trier. Ici, je vous cite deux passages dans lesquels Darwin nous dit ce que sa démarche n'est pas. Certains, dit-il, se sont imaginés que la sélection naturelle amène la variabilité, alors qu'elle implique seulement la conservation des variations accidentellement produites quand elles sont avantageuses à l'individu dans les conditions d'existence où il se trouve placé. Autrement dit, la sélection n'est pas une cause. La sélection ne produit rien. Elle sélectionne parmi des variations accidentelles, Jean-Pierre Changeux disait tout à l'heure, spontanées. Mais cela évoque un hasard, j'y reviens. Darwin se précise aussi ce qu'il veut dire à la fin de l'origine des espèces en insistant sur le point que dans la première édition de son ouvrage, ainsi que dans les autres éditions, il s'est expliqué sur un point et il a déclaré qu'il est convaincu que la sélection naturelle a été l'agent principal des modifications, mais qu'elle n'a pas été exclusivement le seul. La sélection naturelle n'est pas le seul mécanisme, mais c'est le mécanisme principal. Et ce mécanisme nous aide à trouver les causes. Je prends un exemple. Cet exemple, alors un avertissement ici, toute ressemblance avec une grippe aviaire serait accidentelle. C'est un travail fait actuellement par une jeune postdoc à Harvard. Une population d'oiseaux a été anéantie par une épidémie liée à un virus et on a cru à l'extinction de cette population. Puis, on a vu renaître cette population au bout de quelques années et on a trouvé que son génome était modifié. D'où on a conclu que seuls ont survécu et se sont reproduits les rares individus qui étaient dotés d'un facteur génétique de résistance à l'infection par ce virus. C'est typiquement un mécanisme de sélection naturelle. Analysons-le. Le changement opéré, c'est la modification génétique. La sélection naturelle est le mécanisme par lequel le changement s'opère et non pas la cause du changement. Schématiquement, le mécanisme est variation-sélection. L'élément sélectionné est avantageux, mais seulement dans des circonstances particulières, c'est-à-dire qu'il a permis la survie dans ces circonstances qui étaient données et qui étaient improbables pour ces oiseaux, qui n'avaient jamais rencontré le virus, de même que le virus ne les avait jamais rencontrés. Par ailleurs, la variation est interne, elle était là avant le virus, elle aurait pu rester silencieuse, sa sélection naît de la rencontre avec un facteur externe. Résumons ce point 3. Ce qu'on cherche pour expliquer le changement, et non pas seulement pour le décrire, c'est une singularité valorisée par le hasard d'une rencontre fortuite. Point 4. Réfléchissons un peu sur cette démarche de recherche historique qui vise à repérer des singularités. Ce que Darwin suggère ressemble beaucoup à ce que Cournot appelle rencontre de séries causales indépendantes. On va donc essayer ce modèle-là. Cournot définit le hasard comme un fait naturel. On a dit, on cherche des causes naturelles, des événements naturels, qui consistent dans l'indépendance mutuelle de plusieurs séries de causes et d'effets qui concourent accidentellement à produire tel phénomène, etc. Événements qui, pour cette raison, est qualifié de fortuit. L'événement de la rencontre des séries causales était improbable. Et Cournot définit l'étiologie historique comme l'analyse et la discussion des causes ou des enchaînements de causes qui ont concouru à amener les événements dont l'histoire offre le tableau. Causes qu'il s'agit surtout d'étudier au point de vue de leur indépendance ou de leur solidarité. Donc, nous avons ici, dans l'exemple que j'ai donné, ce qui s'est passé chez les oiseaux, Ce qui s'est passé du côté du virus, ça n'avait pas tellement de raisons de se rencontrer. Ça s'est rencontré de façon improbable à un moment donné. Et on peut affirmer, dans ce cas-là, que les deux séries étaient indépendantes, mais qu'elles se sont tapées l'une dans l'autre. Ici, encore un avertissement, toute ressemblance avec le réchauffement climatique actuel est pure coïncidence. Dans son chapitre sur la sélection naturelle, chapitre 4 de l'origine des espèces, Darwin prend l'exemple des effets populationnels dans un pays d'un changement climatique. Il nous dit qu'en cas de changement climatique, les équilibres entre espèces se modifient. Certaines espèces s'en trouvent mieux, mettons, ça se réchauffe. Certaines espèces s'en trouvent mieux et prospèrent, les algues vertes. D'autres espèces s'étiolent et diminuent en nombre. Darwin ajoute quelque chose. Si ce pays est ouvert, la situation va favoriser des immigrations. Qu'on se rappelle à ce sujet, dit-il, qu'elle a toujours été l'influence de l'introduction d'un seul arbre ou d'un seul mammifère dans un pays. Donc, le réchauffement climatique attire des immigrants. Mais s'il s'agit d'une île ou d'un territoire sur lequel on ne peut pas entrer parce qu'il y a des barrières infranchissables, alors il se trouve dans l'économie de la nature une place qui serait mieux remplie si quelques-uns des habitants originels se modifiaient de façon ou d'autre, puisque si le pays était ouvert, ces places seraient prises par des immigrants. Dans ce cas, de légères modifications, je cite toujours Darwin, favorables à quelques degrés que ce soit aux individus d'une espèce, en les adaptant mieux à de nouvelles conditions ambiantes, tendraient à se perpétuer. Darwin ne veut pas dire que la situation provoque des changements dans les espèces qui sont là, mais il suggère que, dans des drôles de termes, la sélection naturelle va chercher et favoriser de petites modifications qui sont favorables à la survie des espèces qui sont là, tenant compte du changement climatique. Les exemples que j'ai donnés, celui de Darwin et celui de la jeune femme de Harvard, déploient deux séries causales présumées indépendantes, série virus, série oiseau, série météorologie, série démographie, dont la rencontre est fortuite. La rencontre explique le changement considéré, le clash des séries. Le schéma de Cournot paraît pertinent, et comme le souligne Cournot, le changement, bien que non prédictible avant, n'est pas sans cause. Il a même double cause, si on peut dire, puisque c'est la rencontre de deux séries causales. Mais ici, on se pose des questions. D'une part, le hasard est-il seulement dans la rencontre fortuite ? Et qu'entend Darwin par l'économie de la nature, qui évoque l'idée d'une sagesse naturelle. C'est mon point 5. L'ontologie sous-jacente à l'analyse causale à la manière de Darwin. Dans l'origine des espèces, au chapitre 4, Darwin écrit que nous avons de bonnes raisons de croire que les changements des conditions d'existence tendent à augmenter le potentiel de variabilité ou la disposition à varier ou la faculté de changer. C'est une affirmation difficile à interpréter. Darwin admet qu'il existe chez les plantes et les animaux une tendance naturelle à varier. Cournot parle de création naturelle, on parlerait aujourd'hui de créativité naturelle. Et Darwin dit qu'on peut l'observer sur les types sauvages qui varient tout seuls, sans qu'on cherche à les modifier. Ces variations, qui se produisent spontanément, sont transmises héréditairement et elles semblent se faire sans but ou sans cause ou par hasard. C'est une loterie, on a souvent employé ce terme. C'est une autre forme de hasard que la rencontre des séries causales. D'autre part, la domestication joue sur cette variabilité spontanée ou naturelle. En modifiant les conditions d'existence du bétail ou du blé, en modifiant ces conditions d'existence, la domestication induit des changements organiques non prédictibles avant et transmissibles après. Darwin y fait allusion au chapitre 1 de l'origine des espèces lorsqu'il écrit que le premier de ces facteurs semble être de beaucoup le plus important, car autant toutefois que nous en pouvons juger, des variations presque semblables se produisent quelquefois dans des conditions différentes et d'autre part des variations différentes se produisent dans des conditions qui paraissent presque uniformes. Les variations sont primairement spontanées avant d'être induite ou avant que la technologie humaine les manipule. Nous avons donc, d'une part, une variabilité spontanée qui serait hypothétiquement un hasard plus profond que la rencontre des séries causales indépendantes, une puissance, une disposition inhérente au monde vivant, une force peut-être, point d'interrogation. En tout cas, pour Darwin, la capacité de changement est inhérente à la réalité, profondément inhérente à la réalité. D'autre part, admettre l'indépendance relative des séries causales, c'est admettre qu'il y a dans notre univers des discontinuités non réductibles, des ordres de réalité plus ou moins clos sur eux-mêmes et qui ne se rencontrent que rarement, qui clashent de temps en temps. Ces deux traits font des sciences du vivant, si c'est ce qu'on observe chez le vivant, des sciences dans lesquelles l'élément historique est inéliminable. Ce qui s'est produit par hasard, spontanément, une fois que c'est arrivé ou retenu, c'est là, ce n'est pas réversible, et pourtant, ça aurait pu ne pas être là. Cette révélation d'une manière dont fonctionne le monde vivant, Darwin s'en déclare à la fin de son ouvrage très satisfait. En écrivant, c'est un passage célèbre, dans les toutes dernières lignes de l'Origine des espèces, le résultat de cette guerre de la nature qui se traduit par la famine et par la mort, la sélection, donc l'élimination, est donc le fait le plus admirable que nous puissions concevoir, à savoir la production des animaux supérieurs. N'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie ? Le progrès, l'amélioration, par la sélection naturelle, c'est-à-dire la destruction de tout ce qui n'est pas sélectionné. Si Darwin trouve cette révélation admirable, nombre de ses contemporains se sont déclarés horrifiés. John Stuart Mill, Émile Littré, plus tard même celui qu'on appelait le bulldog de Darwin, qui avait défendu Darwin au début, Thomas Huxley. Et je vous donne l'exemple de la réaction de Charles Renouvier, lui aussi à peu près contemporain, un peu plus jeune que Darwin. Ici, un avertissement, troisième, toute ressemblance avec la situation des employés de France Télécom serait pure coïncidence, le stress. Renouvier, dans son esquisse d'une classification systématique des systèmes philosophiques, écrit ceci. En exprimant son admiration pour ce plan de la nature, dans les dernières lignes de son principal ouvrage, Darwin s'est évidemment classé lui-même parmi les hommes que John Stuart Mill nous dit être plus développés par la culture esthétique que par la culture morale. Et si on ajoute que Darwin s'attarde à l'idée d'un progrès, hein, ça ne change rien. La vision de Darwin reste esthétique. Et Renouvier continue, cette loi qu'il a mise en évidence reste la même, elle est anti-morale. Elle ne donne pas le bonheur, mais la guerre, la douleur et la mort comme moyen de progrès. Le bonheur, elle le promet, et elle n'est capable de tenir sa promesse à l'égard d'aucun être qui dure. Ils servent tous aux fins d'autrui, sacrifiés incessamment les uns aux autres, sans qu'aucun d'eux ait une fin pour soi et puisse jouir à jamais du résultat de tant d'efforts et de peines. Ça ne s'arrête jamais. Le progrès ne s'arrête jamais, et donc il y a toujours mieux, et donc il faut toujours sacrifier une génération à la suivante. C'est ça le mobilisme de Darwin. Tout change toujours. Pour illustrer ce choc anthropologique, j'emploie l'expression de la revendication d'innocence que j'emprunte à Yves Michaud. Et je vous raconte une toute petite histoire qui est vraie et que j'ai entendue la semaine dernière. Dans la bouche d'un de nos collègues, Manuel Di, qui est professeur dans l'antenne de Manille de l'université de Manille, dans une petite ville des Philippines qui s'appelle Quezon City. Manuel nous a raconté que la semaine d'avant, donc il y a 15 jours, un typhon s'est abattu sur les Philippines, oh, pas un gros typhon, un typhon moyen, il nous a dit, qui a entraîné des pluies torrentielles. Ces pluies torrentielles ont fait plusieurs milliers de morts. Manuel, lui, n'avait perdu que des biens matériels et il nous a dit que sa famille étant indemne et lui-même indemne, il avait de la chance. On lui a dit, vous avez perdu... Oh oui, il a perdu beaucoup de biens matériels. Sa maison a été inondée jusqu'en haut du rez-de-chaussée. Tout ce qui était au rez-de-chaussée a été emporté. Et sa voiture, qui était devant. On lui a dit, oui, mais ça, les assurances... Ah, il nous a dit non. Aux Philippines, les assurances ne paient pas. Les assurances paient les dégâts du feu, parce que le feu, c'est l'homme. Mais elles ne paient pas les dégâts de l'eau, parce que l'eau vient du ciel. C'est pas nous, c'est Dieu. C'est la revendication d'innocence des assureurs. En réalité, nous dit Manuel, si les inondations sont si rapides et si fortes aux Philippines maintenant, c'est à cause de la main de l'homme. C'est parce que la déforestation, les constructions un peu au hasard ont entraîné le fait que le sol n'absorbe plus l'eau au fur et à mesure qu'elle tombe et elle s'écoule. Là, la ville où il habite est dans un creux et le creux a été inondé en quelques heures. Et donc, mon dernier point et ma conclusion s'intitule « La main de Dieu et celle de l'homme ». J'aurais pu l'intituler « Assumer le changement ». Darwin, initialement, s'est intéressé au travail des éleveurs. c'est-à-dire à l'action de l'homme quand il produit des variétés domestiques. Il était donc tout à fait ouvert à l'idée que l'homme peut avoir une influence causale sur l'évolution. Mais cela ne nous donne pas une science, direz-vous. Darwin a réfléchi là-dessus et note dans son carnet, notebook E, que la répétition des essais permet de généraliser jusqu'à un certain point. Il écrit, en pensant aux effets de ma théorie, « On trouvera probablement des lois, nous aimerions mieux dire maintenant des régularités, des lois qui peuvent corréler des parties d'un organisme et nous les trouvons à partir des lois de variation que nous ont permis de dégager des observations que une variation en entraîne une autre. Une intervention entraîne un changement ici ou là. Pensez à l'étude de l'embryologie. En embryologie, on s'attache à montrer ce qu'un ensemble de cellules devient et ce que la modification de cet ensemble de cellules entraîne comme modification des organes par la suite. Donc on a là une petite généralisation qui n'est pas une grande loi de la nature, mais une petite généralisation qui donne un savoir et qui permet d'en tenir compte pour d'éventuelles interventions sur l'embryon. Résumons cela généralement, la connaissance causale ouvre la possibilité d'agir aux jointures causales, c'est-à-dire aux points de variabilité. Par exemple, un éleveur va ajouter des vitamines à la nourriture de ses animaux et voir ce que ça donne, et par tâtonnement, il va trouver une petite généralisation qui lui permet d'améliorer cette variété animale. Ou bien un médecin, disons le corps médical, trouvera des moyens d'empêcher le virus d'atteindre sa cible. Là aussi, toute allusion est pure coïncidence. Bref, la connaissance permet de faire que le cours des choses tourne autrement qu'il n'aurait tourné si c'était seulement la main de Dieu qui agissait. Nous avons actuellement acquis de grands pouvoirs d'intervenir dans le cours de l'évolution. Pensons aux bio- et nanotechnologies, par exemple. Pensons à ce que nous pratiquons quotidiennement dans le domaine de la procréation. Pensons aussi à ce que nous faisons dans le domaine de l'éducation, par référence à ce que Jean-Pierre Changeux disait tout à l'heure. Nous exerçons ces pouvoirs le plus souvent en revendiquant notre innocence. Et cela, je suppose, entraîne une certaine mauvaise conscience. Mais pour assumer l'évolution, pour agir selon ses connaissances, il faut se défaire de l'idée qu'il y a une sagesse immanente à tous les événements naturels. Et je cite ici une déclaration péremptoire d'un biologiste anglais, d'origine brésilienne d'ailleurs, et dont la mère était libanaise, Medawar. Medawar déclare: c'est une vérité profonde qui a été internalisée ou réalisée au XIXe siècle par une poignée de biologistes astucieux et qui n'a pratiquement pas été intériorisée par les philosophes. C'est une vérité profonde que Nature does not know best. Nous disons en français, la nature fait bien les choses. Et ce que Medawar nous dit ici, c'est qu'il n'est pas vrai que la nature fait bien les choses. Cela ne signifie pas qu'elle les fait toujours mal, naturellement. Le plus souvent, elle les fait bien. Mais dans certains cas, nous avons le droit de trouver qu'elle les fait mal et d'essayer de corriger le cours des choses. Changement climatique, par exemple. Mais l'ingérence humaine dans le processus évolutif implique une prise de responsabilité. Pour plagier Cournot, encore une fois, on pourrait dire que l'homme qui s'est cru le roi de la création se retrouve concessionnaire d'une planète et est tenté de se réfugier derrière un principe de précaution pour ne pas gérer la planète. Je vous remercie.